Merci Bertrand. Avant de commencer, je voudrais simplement dire, j'ai écrit ce texte-là dans une optique plutôt, essayistique. Hein? C'est une journée d'études, donc j'arrive avec des propositions. Ce n'est pas une réflexion à caractère scientifique. Elle n'est peut-être pas non plus très rigoureuse, mais j'ai essayé de l'écrire justement dans cette optique-là où il y aura peut-être un débat. Donc, j'imagine qu'il y aura des gens ici qui ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire. N'hésitez pas à me confronter ou simplement à me dire « non, ça n'a pas d'allure, c'est fort probable ». Voilà. Avant de débuter, une citation de Facebook, hein, on est à l'heure du numérique. Donc, Jean-Philippe Gravel, qui est ici aujourd'hui, me disait sur Facebook le 12 janvier, « c'est quand c'est improductif que je me dépense le plus ». c'est un peu dans l'esprit de ma réflexion, donc je me lance. La réflexion que je propose aujourd'hui est née d'un certain agacement. Je ne parlerai pas des blogs en général et on peut se demander si une telle approche est possible, mais bien de mon expérience de lecture et plus spécifiquement de ce qui m'intéresse dans la blogosphère. Parce que s'il y a des milliers de blogs soporifiques, je crois qu'il existe aussi des blogs importants et l'énorme proportion de nullité ne doit pas nous empêcher de considérer avec sérieux cette pratique relativement récente. Si je dis qu'une réflexion générale sur les blogs me semble difficile à mener, c'est que je suis d'avis que le blog est un dispositif d'écriture, davantage qu'un genre avec ses codes figés. Le blog permet des pratiques d'écriture les plus diverses, au même titre que le livre imprimé. Évidemment, il y a des contraintes liées à la nature du médium, mais ces contraintes ne sont pas des interdits. Il s'agit peut-être davantage de stimulants ou lipiens. Il y a toutefois une interprétation qui revient souvent et qui tend à s'imposer, celle du blog où s'épanche le « moi », qu'on disqualifie comme étant l'incarnation du narcissisme du sujet contemporain. Cela n'empêche en rien l'existence de blogs tout autres, où l'on propose des textes de fiction ou encore des réflexions qui évitent l'anecdote nombriliste pour tenter de véritables rencontres intersubjectives. Je propose d'envisager le blog comme un mode d'expression autosuffisant, où la chaîne de production littéraire, et j'utilise volontairement ce terme industriel, est réduite à sa plus simple expression, l'écriture d'un auteur d'une part et sa rencontre avec le lecteur d'autre part. La valeur du blog résiderait là, dans ce geste d'écriture gratuit, cette dépense d'énergie qui risque la pure perte au profit d'une authenticité qui, elle, a quelque chose d'inaltérable. Mon irritation est causée par une certaine propension que je remarque dans le discours critique et journalistique à insister sur les blogs de création qui ont mené à un livre imprimé. Au Québec, cela a commencé à ma connaissance avec les chroniques d'une mère indigne de Caroline Allard, Un taxi la nuit de Pierre-Léon Lalonde et Lucie le chien de Sophie Bienvenue, tous publiés en 2007 chez Le Méac. Des blogs indépendants qui demeurent sur le web, on ne parle à peu près jamais, et tout se passe comme si le blog était un espace intermédiaire, le purgatoire des écrivains wannabe, qui attendent impatiemment que leur soient ouvertes les portes de ce paradis qu'est le monde de l'imprimé. Une anecdote au passage me permettra d'expliquer mon agacement. Le 10 janvier dernier, à l'émission radiophonique « Plus on est de fous, plus on lit », a eu lieu une discussion autour de la question « Le blog est-il mort ?» J'ai été surpris de constater que dans une émission littéraire, on ne parlait pas de blogs de création. La discussion a tourné essentiellement autour des blogs culturels, appréhendés comme étant la contrepartie impressionniste de la vraie chronique journalistique qui, elle, selon Simon Jodoin, directeur du développement des nouveaux médias chez Communication Voir, est un art. On devait comprendre entre les lignes que le blog n'est pas un art, mais plutôt un phénomène de la culture populaire où s'exprime, je paraphrase Jodoin, la dictature de l'opinion et où l'on publie, n'est-ce pas, des photos de chats. Il a aussi été question lors du débat de consommation d'informations. Je ne suis pas certain de comprendre tout ce que recouvre cette expression, mais une chose est certaine, elle désigne une certaine rentabilité du blog, son écriture étant pensée en termes économiques. La question du blog journalistique est loin d'être inintéressante, pardon, mais quand celui-ci devient le centre d'attention d'une émission qui est consacrée à la littérature, on est en droit de se poser des questions. Pour revenir au blog de création, j'aime rappeler que Jean Barbe, directeur chez Le Méac, la maison d'édition où ont été publiés les trois blogs que j'ai mentionnés plus haut, ne croit pas aux potentialités littéraires de la blogosphère. On pourrait penser que si la maison d'édition a publié ces textes, c'est parce qu'ils avaient déjà été validés par leur indéniable succès populaire sur le web, et cela, soulignons-le, sans le travail éditorial traditionnel. En dehors de ces exceptions, cependant, disait Jean Barbe en 2009, je le cite, « c'est beaucoup d'énergie créatrice qui n'est pas consacrée à la littérature. Les blogs n'ont pas encore accouché de la grande œuvre du début du 21e siècle. » Fin de la citation. Les blogs donneraient lieu à des textes superflus. Bien sûr, la valeur littéraire d'un texte est déterminée par la place qu'il occupe dans l'institution, validée par l'autorité d'une maison d'édition, valorisée par la critique, consacrée par les prix littéraires. Ce qui m'amène à proposer qu'il y aurait une gratuité inhérente à la pratique du blog, quelque chose qui échappe peut-être aux mécanismes du système que l'on connaît. Je suis conscient que beaucoup de blogueurs aspirent à être publiés, ce n'est pas la question. Je crois aussi que certains blogs se présentent et se tiennent comme projet autonome, comme un processus d'écriture qui est sa propre fin. C'est précisément cela qui m'intéresse, ce non-lieu de la littérature où des voix s'évertuent à se faire entendre, en dehors de l'institution et sans accéder à la légitimité qui fait de l'écrivain, par un coup de baguette symbolique dont la valeur est aujourd'hui presque incontestable, un écrivain. Je ne crois pas que les textes d'un blog ne devraient jamais avoir de deuxième existence dans un livre. J'ai rien contre cette idée. Je souligne seulement qu'on a du mal à penser le blog en lui-même. Il y a comme une aura de frivolité autour des blogs qui fait en sorte qu'ils sont d'emblée jugés suspects. Bloguer serait une activité illégitime et parfois digne d'attention quand le blogueur est reconnu comme membre de la littérature avec ses grandes ailes. À cet égard, ce n'est pas un hasard si on entend souvent parler des blogs d'Éric Chevillard, de Pierre Assouline ou de Catherine Mavrikakis. Tout se passe comme si l'auteur reconnu avait le pouvoir de légitimer le blog, mais que la pratique du blog en elle-même était sans intérêt dès qu'il s'agit de l'écriture d'un pur inconnu. J'aimerais penser certains aspects du blog à partir de la notion de dépense improductive proposée en 1933 par Georges Bataille, afin de désigner les activités humaines qui échappent au principe selon lequel, je le cite, « tout effort particulier doit être réductible pour être valable aux nécessités fondamentales de la production et de la conservation ». Fin de la citation. Dans son essai, Bataille distingue les activités humaines productives des activités improductives. Du côté des activités improductives, il mentionne le luxe, les deuils, les guerres, les cultes, les monuments, les jeux, les spectacles, l'activité sexuelle perverse, c'est-à-dire détournée de la finalité génitale, de même que les arts. Ces activités trouvent leur fin en elles-mêmes et mettent, je le cite à nouveau, l'accent sur la perte qui doit être la plus grande possible pour que l'activité prenne son véritable sens. Je crois qu'il est possible d'amorcer une réflexion sur les blogs de création à partir de l'idée que toutes les activités humaines ne sont pas réductibles à une logique axée sur la production. Cette idée permet de mesurer la singularité de l'écriture du blog en marge de l'institution et en périphérie du champ littéraire de notre époque. J'aime pour ma part imaginer le blogueur comme étant cet écrivain qui se soucie peu de la rentabilité de son écriture. J'aime l'imaginer comme étant l'incarnation d'un rapport désintéressé à l'institution au profit d'une écriture qui relève de la dépense et du don, sachant que le don est ce qui assure la solidité des liens d'une communauté. L'écriture d'un blog est parfois voisine du sacrifice. Il n'y a qu'à penser à l'ordre de lecture des textes, le premier publié étant rapidement écrasé par les textes suivants qui lui font ombrage. Le premier texte voit ses chances d'être lu diminuer à chaque fois que son auteur en publie un nouveau. Pour certains blogueurs, le problème est gênant et il existe divers moyens d'y remédier. On peut développer une taxonomie qui regroupera les textes empruntant des avenues semblables et qui fera ressortir les thèmes de prédilection de l'auteur. La plupart des plateformes offrent aussi la possibilité d'afficher les biais les plus populaires. Toutefois, aucune de ces solutions n'est totalement satisfaisante. On sait par exemple que les textes les plus populaires ne sont pas nécessairement les meilleurs, tandis que la navigation par mots-clés, n'est pas des plus intuitives et ne constitue pas un mode de lecture privilégié. L'écriture du blog est donc, en quelque sorte, une école d'humilité. Au-delà de ces contraintes liées au mode de publication des textes sur un blog, il y a aussi la question de la valeur qui est accordée à ces textes. Je reviens sur le jugement de Jean Barbe, puisqu'il évoque bien la question que le blog pose. C'est beaucoup d'énergie créatrice qui n'est pas consacrée à la littérature. Il y aurait donc une énergie créatrice, un potentiel créateur, mais pas de littérature. Même si cela saute aux yeux, il est important de rappeler que le blog a rendu commune la pratique de l'auto-édition, qui auparavant était plus marginale. Aujourd'hui, peut-être comme jamais auparavant, l'écrivain peut être connu d'un nombre considérable de lecteurs, et ce, sans le support des éditeurs, des journalistes et des libraires. Pourtant, on le sait, on le sent, cette reconnaissance de la part d'un certain nombre de lecteurs, qu'ils commentent ou non les textes publiés sur le blog, ne suffit pas. Cela en dit beaucoup sur le rapport fétichiste que nous entretenons à la littérature aujourd'hui. D'une façon purement abstraite, ce qui devrait faire l'écrivain, c'est l'acte d'écriture. Or, il n'en est rien, le livre a un pouvoir sacralisant. Ce n'est pas seulement l'écriture qui fait l'écrivain, mais bel et bien l'objet livre, de même que les différents acteurs qui confèrent au livre sa valeur symbolique. que je remarque dans la blogosphère que je trouve admirable, c'est le culot qu'ont certains blogueurs de s'autoproclamer écrivains. Ceux-ci pensent l'écriture du blog comme étant un geste sérieux et s'arrogent le droit de participer à la littérature sans l'attestation des instances ayant traditionnellement le pouvoir de les consacrer. Je pense par exemple à Amélie Paquette, l'auteur de Déprime explosive, un blog qu'elle nourrit sur une base régulière depuis plus de 10 ans. Sur la page de présentation, on peut lire ceci. Déprime explosive est le journal d'Amélie Paquette, une intellectuelle enthousiaste et amère. Elle est étudiante au doctorat en sémiologie et se consacre entièrement à la littérature. Avec cette dulcinée, elle se livre à des exercices littéraires sous leur pseudonyme d'Albertine Bouquet. Fin de la citation. Sur son blog, Amélie Paquette partage avec ses lecteurs son expérience du monde, et ce qui me surprend le plus, c'est sa sincérité. J'admire son assiduité et sa rigueur. Quand j'ai découvert son blog il y a quelques années, elle écrivait presque tous les jours de grands biais flamboyants, irrigués par ses lectures enthousiastes d'Adorno. Parfois, elle pouvait écrire plusieurs textes sans susciter la moindre réaction de ses lecteurs. J'insiste là-dessus parce qu'on décrit parfois la blogosphère comme étant un phénomène de clic. C'est souvent le cas, mais je crois qu'il faut éviter de réduire la blogosphère aux flatteries consensuelles. Avec le recul, on peut constater que des groupes de blogueurs se forment et se dissolvent à chaque année. La complaisance n'est pas un moteur d'écriture puissant et, faut-il le rappeler, on s'acoquine aussi dans le milieu de l'édition. À lire des primes explosives, on comprend que son auteur n'accorde que peu d'importance à la reconnaissance de ses pairs. Il a quelque chose d'infatigable dans sa pensée critique et un certain désespoir dans son effort constant de dévoiler ses pensées les moins consensuelles, comme s'il s'agissait d'un appel à des semblables silencieux qui la croiseront peut-être un jour sur le réseau. On se rend compte en lisant ses textes que le blog peut être une pratique sérieuse, vitale, aussi sacrée que l'est pour nous la littérature consacrée. On a affaire à une écriture de soi qui se conçoit comme altérité qui s'expose. L'auteur a d'ailleurs signé un texte à propos des blogs cette année sur le site de Salon Double, intitulé « Une littérature qui ne se possède pas ». Paquette propose une réflexion sur la culture web et sur la façon avec laquelle celle-ci représente un moyen de préserver la littérature des marchés économiques. Je la cite. Le blog littéraire est une forme encore libre des marchés économiques et a tout intérêt, à mon avis, à préserver cette liberté, à ne pas entrer dans les rangs du capitalisme. Il y a si peu de choses qui échappent encore aux lois économiques. Si le blog parvient à le faire, c'est déjà une nouvelle importante pour l'avenir de la littérature, pour une littérature qui ne se possède pas. Dans cet esprit, Internet est encore un territoire neuf à explorer pour les écrivains, un territoire où la liberté peut encore être conquise et surtout où elle pourrait peut-être être préservée. Fin de la citation. Cet extrait permet d'entrevoir comment la blogosphère recèle une façon radicale de penser l'autonomie littéraire. L'écrivain qui aspire à être publié subit diverses pressions qui relèvent essentiellement de critères économiques. La norme esthétique des textes qui sont encensés dans les médias correspond au goût littéraire du public et donc aussi de ce que les éditeurs jugent rentable. Dans un entretien récent, Mathieu Arsenault soulignait ce problème en affirmant que la norme tend à étouffer la diversité et la vitalité de la littérature québécoise actuelle. Je le cite. L'image médiatique de la littérature québécoise actuelle construit un programme finalement assez réducteur dans ses propositions esthétiques. Du roman, du roman, du roman, avec du souffle, de la maîtrise, et assez souvent, une retenue, un art de la concision. Quand on parle de la relève dans les médias, c'est d'ordinaire à ceci qu'on fait référence, l'espoir que survive ce rapport à la littérature et les pratiques qui lui sont associées. Mais cette idée de la relève n'incarne qu'une forme parmi d'autres de rapport à la tradition littéraire. Ces propos s'inscrivent dans un contexte de valorisation de la poésie, mais il faut leur rendre toute leur portée et les comprendre comme étant une remise en question des instances de légitimation dont nous disposons. Dans la logique du marché du livre, il n'est pas surprenant de remarquer une certaine convergence des opinions. En ce sens, le blog « Déprime explosive » incarne un rapport à la littérature qui a quelque chose d'irrévérencieux et de salutaire. L'auteur s'approprie la liberté constitutive du médium pour pratiquer son écriture. Alors que certains jugent le blog comme étant une pratique narcissique, Paquette propose plutôt d'y voir une exposition volontaire d'une certaine vulnérabilité du sujet contemporain. Cette exposition trahit aussi, à mon sens, le désir d'une communauté à venir, l'espoir d'une rencontre authentique. À propos du blog, elle écrivait, je la cite, « qu'il occupe une place que les autres formes littéraires, le roman, la poésie, le théâtre, l'essai, ne peuvent pas ou ne peuvent plus prendre. Se présenter dans le monde comme vulnérable est en soi un grand acte de courage. » De ce point de vue, le blog littéraire est un genre courageux. Il a les tempes assez solides pour se montrer aux autres sans être appuyé par l'industrie du livre. Le blog All Work and No Play de Jean-Philippe Gravel pose lui aussi avec insistance la question de la pertinence du blog et de son rapport à l'institution. Je le lis depuis janvier 2011, alors que son auteur a amorcé une réflexion intensive sur la pratique du blog. Ce qui est fascinant dans ce projet d'écriture, c'est la façon avec laquelle l'auteur joue de l'aspect modulaire du blog afin de matérialiser l'incertitude et les questionnements qui sont les siens. En un an, il a publié 110 billets qui, mis un à la suite de l'autre, donnent 225 pages à interlink simple avec la police Time New Roman en caractère d'eau, soit plus de 120 000 mots, ce qui est quand même assez considérable. Bravo Jean-Philippe. Ces chiffres ne disent rien de la qualité de l'écriture, évidemment, mais ils permettent d'entrevoir le degré d'engagement de leur auteur. En lisant les billets de 2011, j'ai été surpris par les nombreux jeux de renvoi auxquels l'auteur s'adonne au fil des textes. Gravel, il met en place une logique tentaculaire qui déjoue la contrainte chronologique du blog. Et c'est peut-être dans son rapport au temps que ce blog est le plus intéressant. Celui-ci rejette l'interdit implicite du texte long et assume le risque de ne pas être lu. Il impose ainsi un rythme en refusant au lecteur l'expérience fugace d'une lecture pause-café. Il exige un investissement. De la même façon, certains textes se déploient en série, par exemple la dizaine de textes sur les blogs ou encore plus récemment celle qui débute sur Jean-Luc Godard. On peut évidemment lire chaque texte indépendamment des autres, mais je crois que ces séries exemplifient à merveille l'une des différences entre le blog et le livre. La série ouverte du blog permet une expérience d'écriture et de lecture qui sont fondées sur une pensée en train de se faire, en processus, et qui se permet d'infimes modulations au fil des biais, des recensements et des ajouts. Il faut voir dans ce projet, tout comme dans celui d'Amélie Paquette, le travail d'un auteur qui assume et qui affirme son autorité dans la solitude d'un projet littéraire auto-édité. C'est en partie pourquoi j'ai affirmé qu'il me semble inexact de penser le blog comme étant un genre. Peut-être est-il plus juste de considérer le blog comme étant cet espace où il est possible pour un auteur d'affirmer son autorité, l'écriture y étant autotélique et insoumise. À ce propos, il est savoureux de lire un passage comme celui-ci où Gravel met dans la bouche des défenseurs de l'institution les différentes objections qu'on pourrait lui adresser quand il ose jouer à l'écrivain. Je le cite, « Traitez-moi de prétentieux, de scribouilleur, de propos ineptes, de geek qui se prend pour un autre sous la blanquette électrique du blogging et des journaux privés, de procrastinateur n'ayant jamais publié de bouquin de sa vie, de matamor intellectuel, de t'es qui toi pour te prononcer sur ceci et cela ?» En des termes pareils, de réactionnaires péremptoires ne comprenant rien à rien, d'infatués du bide, dont les délires de persécution n'ont d'égal que le complexe de supériorité, je suis écrivain. Pas écrivain, là, écrivain, même ici dedans, dans cette page-ci comme les autres, tant pis si ce n'est pas la modestie qui m'étouffe, j'ai payé. Fin de la citation. Donc, je conclue rapidement. J'ai voulu brosser le portrait du blogueur comme étant dépensier de son temps et de ses idées. Cette pratique du blog s'inscrit dans le contexte plus général de la culture web où des communautés travaillent à offrir des logiciels gratuits et où des artistes pratiquent leur art sans se soucier des droits d'auteur. Je n'ai donné que deux exemples de dépensier, mais je ne crois pas qu'il s'agisse d'un phénomène si marginal que ça. Par exemple, sur son blog Patty O'Green, Paul Macrousse affirme qu'elle tient un blog, je la cite, parce que le partage est le sens qu'elle donne à son écriture. Et je terminerai avec ça. Dans la littérature à l'estomac, Julien Gracq décrivait magnifiquement ce partage entre l'auteur et son public comme étant une adhésion donnée dans le secret du cœur. Je cite Gracq, « C'est sur cette adhésion donnée dans le secret du cœur que se fonde la prise d'un écrivain sur son public, la société secrète qu'il a peu ou prou créée, sur laquelle il n'a que de très vagues indices et qu'il ne dénombrera jamais heureusement. C'est par elle seule qu'il est, s'il est quelque chose. » Fin de la citation. Le blog permet cette relation intime, au-delà de laquelle écrire ne signifierait rien. En cela, sa valeur est inestimable. Que cette relation soit reconnue ou non par l'institution n'y change rien. Les grandes passions, de toute façon, ne respectent jamais la vie de l'autorité. Voilà.